Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, lobo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé. Xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé.
L'évolution sera féministe sur Radio Galère. Merci de votre écoute. Alors pour commencer, je vais rendre hommage à Anne Sylvestre. Pour nombre de féministes, c'était plus qu'une référence. Anne Sylvestre, avec ses cheveux rouges, sa forêt d'histoire et de son joyeux, c'était un apprentissage de la liberté. En écoutant les chansons de l'artiste, morte à 86 ans, ce mardi 1er décembre, on se sentait moins seul. On riait comme avec une bonne copine. Comme dans La faute à Ève, qui dénonce la misogynie du christianisme. Ou encore La vaisselle, qui se moque de ses hommes assis à attendre que les tâches ménagères se fassent. Parfois, on pleurait aussi. On avait l'impression qu'elle partageait le fardeau des femmes. Le viol dans Douce maison, ou l'avortement dans la magnifique Non, tu n'as pas de nom. C'est pour toutes ces chansons que les femmes et les féministes l'aimaient. Féministe, la seule étiquette qui ne la dérangeait pas. Les féministes le savent, Anne Sylvestre a dû se faire sa place dans un monde d'hommes, à l'époque où s'affirmer chanteuse était en soi un acte politique. À l'époque, les femmes étaient seulement des interprètes, disait-elle, à l'exception de Nicole Louvier. Quand je l'ai entendue à la radio, jeune femme d'à peu près mon âge qui écrivait et composait elle-même, j'ai su que c'était possible. C'était un peu subversif d'être une fille et de prétendre jouer ses propres chansons, dit-elle encore. Être appelée féministe était donc, dit-elle, la seule étiquette qui ne la dérangeait pas. Elle disait « Je n'aime pas beaucoup ces mots en « isme », mais il n'y en a pas d'autres ». Ses chansons ont accompagné les différents combats, comme Une sorcière comme les autres, sortie en 1975, où elle pointe du doigt l'assignation à la maternité réservée aux femmes. Anne Sylvestre se réjouissait que depuis 2017 et la vague MeToo, les femmes soient plus écoutées. Elle disait « On voulait que les femmes parlent, mais on ne les écoutait pas ». C'est ce qu'elle constatait dans l'émission Vieille branche, saluant une jeunesse résistante. Anne Sylvestre n'avait pas peur de vieillir. Elle disait « Vieillir, c'est abandonner des choses, et en dehors aussi. » C'est ce qu'elle disait donc dans la même émission. Elle voulait seulement réussir sa mort. Son souhait est en train d'être exaucé. Donc je vais vous faire écouter tout de suite des chansons que j'ai réécoutées, effectivement, et que j'ai trouvées sublimes. J'espère que vous l'aimerez aussi. Donc c'est « Douce maison ».
Une maison douce, une maison de bon aloi, juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits, assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs, on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte, on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Sauvagement, ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux, ils gravent des insultes sur les murs et s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. La maison, depuis ce crime, n'a plus d'âme ni de nom. Mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. D'ailleurs, une maison sage ne reste pas isolée. Celles qui sont au village se font toujours respecter. Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien. C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Si vous passez par la route et si vous avez du cœur, vous en pleurerez sans doute, c'est l'image du malheur. Mais rien, pas même vos larmes, ne lui portera secours. Elle est loin de ses alarmes, elle est fermée pour toujours. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Si j'ai raconté l'histoire de la maison violentée, c'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix, même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas. Moi je dis ce que je dois.
Si j'ai raconté l'histoire de la maison violentée, c'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête. On doit pouvoir vivre en paix, même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Je remercie tellement Anne-Sylvestre d'avoir écrit cette chanson. Excusez-moi pour l'émotion. Mais voilà, c'est une chanson qui fait du bien, qui guérit, je pense, les femmes. Et chanter ces chansons, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous guérit. Et puis, je trouve que c'est assez magnifique, cette maison violentée pour parler des femmes. Ça me fait penser à Erdogan, qui disait, en parlant des femmes voilées, que si une femme n'était pas voilée, c'était comme une maison dont la porte était ouverte, on pouvait y entrer. Alors, on va faire un lien sur une pétition, puisque cette chanson parlait du viol. Et bien, il y a en ce moment une pétition lancée par Oser le féminisme, qui essaye de lutter pour une meilleure définition du viol, puisque la définition du viol est encore trop restrictive. Je vous rappelle que le viol n'est devenu un crime en France que très récemment, puisque c'était en 1980, notamment grâce au combat de féministes et de Gisèle Halimi et son procès retentissant, le procès du viol, procès qu'elle a rendu politique et qui a permis de faire évoluer la loi en France. Cependant, les lois ne suffisent pas, ou en tout cas doivent encore évoluer. Donc voilà ce qui se passe. Dans un arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de cassation exige de la victime qui avait 13 ans au moment des faits qu'elle justifie de la profondeur des pénétrations imposées par son beau-père pour qualifier le viol. Or, le code pénal ne demande aucune exigence de profondeur. Les juges inventent du droit et assurent l'impunité des violeurs pédocriminels. Donc, voici une lettre qui a donc été écrite par l'association Oser le Féministe et que vous pouvez relayer si vous allez sur leur site, vous pouvez l'envoyer. Donc je vous lis cette lettre puisqu'elle vous explique en fait plus précisément de quoi il s'agit. Donc, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, dans un arrêt du 14 octobre 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a créé une nouvelle condition restrictive à la qualification de viol, allant au-delà de son pouvoir d'interprétation, assurant encore plus d'impunité aux violeurs, qui ne sont pourtant déjà qu'un pour cent à être condamnés pour leurs crimes. Elle avait 13 ans lorsque son beau-père a commencé à lui imposer des actes sexuels. Elle décrit ces violences sexuelles qui ont duré plusieurs années, notamment des pénétrations avec la langue. Néanmoins, les juges du fond ont exigé de la victime qu'elle donne des précisions en termes d'intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement. Je cite. En défaut de quoi, selon ces juges, cela, je cite, ne caractérise pas suffisamment une introduction volontaire au-delà de l'orée du vagin, suffisamment profonde pour caractériser un acte de pénétration. La Cour de cassation, plus haute instance du système judiciaire français, a validé cet argumentaire allant au-delà des critères requis par le Code pénal pour qualifier un viol. En effet, que dit le code pénal? Eh bien, l'article 222-23 du code pénal dispose que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Le critère est donc l'acte de pénétration et non sa profondeur. Cette jurisprudence vient rendre encore plus limitative la définition juridique du viol en droit français, pourtant déjà en violation de la Convention d'Istanbul, car trop restrictive. Comment continuer à exiger des filles et des femmes qu'elles confient leur sécurité, leur confiance et leur réparation à un système qui persiste à leur dénier justice ? Rappelons que 70% des plaintes pour viol sur mineurs sont classées sans suite, 52% des plaintes instruites sont ensuite déqualifiées et correctionnalisées, résultat 0,3% des viols sur mineurs font l'objet d'un procès pour viol. Voilà, moi je suis scandalisée de ça. Nous voulons la fin de l'impunité des violences sexuelles, c'est urgent, ça se passe en France. Et nous demandons aussi un seuil, donc j'en parle déjà régulièrement, un seuil de non-consentement qui n'a pas été, pour les mineurs, qui n'a pas été encore fait. C'est-à-dire qu'en dessous, nous demandons qu'en dessous de 13 ans, une enfant n'est pas justifiée qu'elle soit consentante ou pas. Voilà. Et que ce soit un viol, quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, je vais enchaîner maintenant donc avec un discours de Anas Jaoui, qui peut-être vous avez entendu. Sinon, je vais le repasser parce que vraiment, il est beau. Donc en fait, l'actrice, ça se passait donc pour le 25 novembre, journée pour lutter contre les violences faites aux femmes. L'actrice et réalisatrice a secoué ce jour-là, c'était mercredi, les troisièmes assises du collectif qui lutte en faveur de la parité et de la diversité, collectif 50-50, et contre le harcèlement et les violences sexuelles dans le cinéma et l'audiovisuel. Donc son discours dure 7 minutes, je vais vous le faire passer tout de suite. Il y avait 600 internautes qui s'étaient connectés pour assister en visioconférence, crise sanitaire oblige, à une matinée de discussion et d'intervention qui avait été organisée par le collectif, donc je vous disais 50-50, il s'appelle, vous pouvez trouver son site internet, c'est très intéressant, au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. La journée s'était ouverte avec la diffusion d'une vidéo de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et poursuivie avec une succession de tables rondes. L'une d'elles s'était penchée sur une étude sur les représentations et le fameux test de Bechdel qui montre précisément la sous-représentation des protagonistes féminins dans les œuvres de fiction. Pour ceux que ça intéresse, j'ai un podcast que vous pourrez retrouver sur le cinéma, la représentation des femmes dans les films. C'est très, très, très impressionnant. Alice Gervais faisait partie des intervenants et attendait patiemment son tour pour parler. Quand elle a pris la parole, cette actrice et réalisatrice, qui est elle-même membre du collectif 50-50, a saisi son auditoire par la force d'un discours intime et féministe dans lequel elle raconte sa propre expérience et les blessures infligées à la petite fille, à la femme, l'actrice et la réalisatrice qu'elle est devenue. Dans cette vidéo, c'est pas une vidéo, enfin si c'est une vidéo, mais moi ça va devenir un son, je vais vous faire passer. Elle dit croire à l'influence immense des images, celle de ces mots ont valeur de témoignage et une portée symbolique forte. Voilà, donc sans plus attendre, je vous le fais écouter.
Oui, ça commence à 5 ans. Vers 5 ans, je me suis fait abuser par un inconnu dans la cage d'escalier de mon immeuble. Juste après, tandis que ma mère appelait la police, il y avait à la télévision un film pour enfants avec une petite fille blonde qui disait de jolies choses et de sa bouche sortaient des diamants. Et une petite fille brune qui disait des gros mots et de sa bouche sortaient des crapauds. Vers 6 ans, j'ai découvert à la télé Fifi Brin d'Acier, une petite fille avec des tresses en l'air et une force surnaturelle. J'ai beaucoup aimé Fifi Brin d'Acier. À 11 ans, je me suis fait abuser par mon oncle. À 12 ans, j'ai commencé un régime que je n'ai toujours pas terminé pour tenter d'éradiquer ces rondeurs et cette graisse qui semblait poser tant de problèmes de désir et de dégoût. Vers 13 ans, j'ai vu des films avec Marilyn Monroe et j'ai chanté devant le miroir, la bouche en cœur, comme elle, tous ses succès. Vers 16 ans, au cours de théâtre où j'étais inscrite, je me suis rendu compte que pour 10 rôles d'hommes, il y en avait 2 ou 3 de femmes et qui offraient peu de possibilités d'identification, à savoir l'obligatoirement jeune et belle fille à marier, la soubrette, moins obligatoirement jeune et belle, la marâtre, qui pouvait à loisir être laide et vieille, puisque périmée, impropre à la consommation. Plus tard, j'allais me rendre compte que durant ces études, beaucoup de bandes de garçons allaient se constituer et travailler ensemble, et très peu de bandes de filles. Vers 19 ans, je me suis rendu compte que je n'avais pratiquement lu que des livres écrits par des hommes et dont les héros principaux étaient des hommes. Vers 24 ans, j'ai revu des films avec Marilyn Monroe et je me suis rendu compte que j'avais voulu ressembler à une idiote. Vers 25 ans, une casting m'a dit qu'il recherchait pour un film d'auteur une actrice prête à se faire sodomiser en vrai. Vers 26 ans, j'ai commencé avec Jean-Pierre Bacri à m'écrire mes propres rôles. Vers 27 ans, j'ai vu et aimé Thelma et Louise, mais après je me suis violemment disputée avec un grand ami qui reprochait au film l'usage des armes et la violence de ses héroïnes. Vers 30 ans, quand je faisais des interviews à l'étranger, j'étais très fière de clamer qu'en France, nous étions 20% de femmes réalisatrices, bien plus que dans n'importe quel autre pays du monde. Vers 34 ans, je me suis rendu compte que cela signifiait, je suis un peu mauvaise en calcul, que 80% de films étaient réalisés par des hommes. Et je me suis demandé pourquoi j'avais été si fière d'un pourcentage aussi nul. Quelle puissante acceptation de mon infériorité m'avait fait me réjouir d'un chiffre aussi minable. Vers 35 ans, j'ai cherché une actrice jeune, en surpoids, pour un film, et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de candidates. Comme si elle s'était auto-censurée et interdite d'elle-même de pousser la porte d'un cours de théâtre. Un an plus tard, le film est sorti avec l'excellente Marie-Lou Berry dans le rôle. et je me suis rendu compte qu'aucun magazine féminin ne la mettrait en couverture, comme ils aiment pourtant le faire lorsqu'une fille d'actrice célèbre accède à son premier rôle. Au mois de mai, à force d'hésiter entre 12 robes, j'ai eu envie de monter les marches du Festival de Cannes toute nue. Vers 35 ans, je me suis rendu compte que l'une des raisons pour lesquelles je trouvais les actrices de la série Soprano si épatantes était qu'elles avaient des corps normaux. Parce qu'autrement, dans tous les commissariats de police et les cabinets d'avocats, on recrute visiblement dans des agences de mannequins. Je me suis rendu compte que mes amies actrices travaillaient moins que mes amies acteurs. Vers 45 ans, je me suis rendu compte qu'il existait beaucoup plus d'écrivaines, de compositrices, de réalisatrices, de peintresses que je ne le croyais, mais qu'elles avaient été mystérieusement effacées de notre patrimoine. Je me suis rendu compte à ce moment-là aussi qu'on disait patrimoine et non matrimoine. En mars dernier, confinée avec un grand ami, je lui ai dit que j'étais un peu lasse des films d'hommes avec que des hommes. Lui ne voyait pas le problème, mais j'ai insisté et nous avons fini par voir Olivia de Jacqueline Audry, où il n'y a que des femmes. Mon grand ami s'est endormi au bout de 5 minutes. En octobre, une émission sur France Culture racontait l'histoire de Jacqueline Audry. Cette émission était intitulée « La disparue du cinéma français » et montrait comment la Nouvelle Vague, entre autres, avait méprisé et banni cette réalisatrice jusqu'à nos mémoires, jusqu'à l'effacer de nos mémoires, et tant moqué le fait qu'elle tournait en pantalon. En 2017, on a représenté pour la première fois correctement le clitoris dans les manuels scolaires. Depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'une seule femme avait obtenu le César de la meilleure réalisatrice. En 2020, on s'est rendu compte que la composition des votants au César comptait une majorité de 65% d'hommes. En 2020, 88% des films à la télévision française sont réalisés par des hommes. Au cinéma, ce sont 76% des films, selon les années, un peu plus, un peu moins, qui sont réalisés par des hommes. J'ai 56 ans et je ne me réjouis pas de ces chiffres. Je crois à l'influence immense des images, et d'autant plus quand nous n'en avons pas forcément conscience. Je crois qu'une série télé avec un président noir peut aider à élire Barack Obama. Je crois que des représentations répétées de femmes filiformes, jeunes, blanches et soumises, n'aident pas à l'épanouissement des femmes ni des hommes. Enfin, je me permettrai de m'inspirer de Camus qui disait que mal nommer les choses, c'était rajouter au malheur du monde, en disant que ne pas mettre en image nos diversités, c'est rajouter au malheur du monde. Je finirai par cette citation. Je ne sais pas qui l'a écrite, ça doit être une femme. Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.
Merci beaucoup. Oui, j'ai tout aimé, et même la dernière citation aussi. Donc, pour rebondir sur cela, c'était vraiment un très très beau discours. Je pense aussi que les images ont beaucoup beaucoup d'influence sur notre intériorisation de soumission, en fait, et les stéréotypes que l'on nous envoie en permanence, surtout effectivement au niveau des films, sont vraiment très très forts. Et du coup, j'ai pensé, comme j'ai toujours beaucoup de matériel en fait, j'amène pour faire l'émission, j'ai énormément, je prépare 10 fois plus que ce que je fais ensuite au cours d'émission. Donc là maintenant, j'ai envie d'utiliser bien un texte que je trouve qui s'enchaîne bien, qui s'intitule « Féminité et misogynie ». C'est écrit sur un site qui s'appelle affranchi.fr, que bon, j'ai découvert par hasard. Et c'est inspiré du livre « Féminité » de Suzanne Brown-Miller. Donc je ne sais pas très bien quelle est l'autrice de ce texte. Mais ce texte, donc, c'est carrément un livre, en fait, qui fait une trentaine de pages. Et je trouvais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de points importants. Très intéressant. Je ne vais pas vous lire 30 pages, ça serait trop long. Bon, je vais vous lire au moins le début et quelques parties qui me semblent les plus intéressantes. Donc, la féminité peut signifier deux choses. Ce qui est spécifique aux femmes et les pratiques misogynes que les hommes nous imposent. La langue française est décidément si bien faite que les hommes nous ont volé le vocabulaire même censé nous décrire, prétendant ainsi que leurs injonctions sexistes sont en fait l'expression de notre nature profonde. Pour la plupart des Françaises, être féminine ne signifie pas être un être humain de sexe féminin. Cela signifie être douce, ne pas hausser la voix, ne pas s'asseoir les jambes écartées, ne pas être ambitieuse, avoir modifié son apparence, cacher ses cheveux blancs, se peindre un visage, rehausser sa poitrine, faire disparaître ses poils, et se mettre au service des hommes, faire la cuisine, faire des enfants, faire le ménage, porter de la lingerie sexy au lit. Voilà une femme féminine. Selon cette définition, la féminité a pour objectif principal d'inventer ou d'exagérer des différences sexuelles qui servent à renforcer le statut dominant des hommes et à afficher ou même créer une dépendance vis-à-vis d'eux. La féminité glorifie la vulnérabilité, la faiblesse, la naïveté et la jeunesse, souvent prépubère. Les larmes sont fortement encouragées, permettant de faire dévier la colère des femmes, si bien que beaucoup d'entre elles ne savent exprimer leurs émotions que par des larmes involontaires. La féminité infantilise les femmes. Sais-tu marcher sur tes deux jambes? Alors porte donc des talons aiguilles et transforme un acte du quotidien en un parcours d'obstacles. As-tu des poils sur le corps? Efface-les et retrouve ton corps d'enfant. Quant aux vertus dites féminines, elles sont toujours l'expression d'un manque d'ambition personnelle. La seule arène compétitive autorisée aux femmes est précisément celle de la féminité. Faire comme les autres femmes, faire mieux que les autres femmes, devenant l'idéal féminin, une guerre interne pour satisfaire les hommes. Certaines femmes me disent que non, elles ne sont pas féminines pour les hommes, elles le sont parce qu'elles aiment ça et que c'est leur choix personnel. C'est aussi le choix personnel de la quasi-totalité des femmes, étrangement. Il est pourtant assez révélateur d'observer que les femmes lesbiennes sont celles qui rejettent la féminité le plus couramment, ce qui coïncide avec le fait qu'elles ne cherchent pas à plaire aux hommes sexuellement. En revanche, les hommes gays sont ceux qui adoptent des pratiques féminines le plus couramment, ce qui coïncide avec le fait qu'ils cherchent à plaire aux hommes sexuellement. Alors, ce choix personnel pourrait-il bien être guidé? Le monde sourit favorablement à la femme féminine. Il distille quelques courtoisies et privilèges. Et pourtant, l'ironie est grande, car une femme ne peut être féminine qu'en acceptant des restrictions. La pire restriction étant probablement celle de l'esprit, car une femme féminine se regarde vivre, parfois plus qu'elle ne vit. Bon, là, je fais juste une parenthèse parce que pour rebondir avec le discours d'Agnès Jaoui qui parlait de Marie Laurent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette description donc, de la féminité qui est en fait, correspond vraiment à l'icône Marie Laurent, l'icône de la féminité. Voilà, une femme enfant, une femme infantilisée. Voilà, une femme qui dans tous les films qu'on lui a fait faire, devait être seulement légère, assez stupide, n'avoir absolument pas d'esprit. Et en fait, voilà, je pense qu'elle a une vie très, très dure. Ça me fait plutôt de la peine. Donc, je continue. Ses pensées sont sans cesse polluées par des préoccupations paralysantes. Surveillant en permanence son apparence et l'impression qu'elle donne, comme un réflexe, une angoisse qui l'empêche de s'oublier, de vivre l'instant présent, de penser librement. Les gestes du quotidien sont mesurés, comparés et souvent dévalorisés. Elle sort de son corps pour s'observer. Son existence devient théâtrale. La féminité s'étend devant nous comme une immense collection de compromis. Elle demande toujours plus. Et les écarts sont punis promptement, car être insuffisamment féminine est perçu comme une défaillance profonde de son essence sexuelle et une forme de paresse ou de haine de soi. Pire, elle est aussi un désintérêt vis-à-vis des hommes, crime suprême s'il en est. La femme qui ne joue pas son rôle ou la joue mal sera jugée et se jugera masculine, frigide et moche. Elle sera diabolisée en des termes étrangement similaires à ceux utilisés pour décrire les sorcières d'autrefois. La féminité permet aux hommes de briller par contraste. Elle leur offre un piédestal irrité et leur permet de respirer librement, se sentant plus fort, plus sage et plus compétent par comparaison. C'est probablement le but principal de la féminité, justifier la domination des hommes sur les femmes en permettant aux hommes d'afficher une supériorité artificielle. Ces derniers apprécient donc tout particulièrement la femme qui dépense beaucoup de temps, d'énergie et d'argent à créer un être humain qui apparaît, agit, sent et pense si différemment d'eux. Voilà non seulement une femme qui se soucie grandement de l'opinion des hommes et qui respecte leurs injonctions, mais surtout les femmes qui veulent les faire paraître meilleures qu'ils ne sont, sans qu'ils n'aient à lever le petit doigt. Bravo et merci. Puis ils font volte-face et l'accusent d'être superficielle et puérile. C'est ce dont on accusait Marilyn Monroe en permanence. Des traits de caractère qu'ils déclarent ensuite innés chez elle. La boucle est bouclée. Voilà, donc je vous disais, ce texte est très long, mais il vaut le coup d'être... vraiment d'être lu. Moi, ça m'a beaucoup intéressée. Donc après, elle parle du corps des femmes. Presque toutes les civilisations humaines qui ont tenté d'imposer un modèle uniforme au corps des femmes, une esthétique féminine qui entrave la solidité des corps des femmes en les réarrangeant, accentuant, etc. Donc voilà, elle refait un peu l'historique dans le monde de ce qui se passe au niveau du corps des femmes, leurs pieds en Chine, les seins, etc. On y, par rapport à, enfin, c'est un peu un voyage historique et dans le monde. Ensuite, elle parle des cheveux, elle parle du voilement. Elle parle ensuite, elle parle des vêtements, les vêtements féminins qui sont dits féminins. Elle parle de l'influence de la pornographie par rapport à une mode féminine qui existe pour exciter la gente masculine. Ensuite, elle parle de la parole des femmes. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Ensuite, elle parle de la maternité, de l'amour, les femmes qui doivent absolument se sacrifier par amour. Et voilà, la conclusion, je vais vous lire juste la conclusion de ces 30 pages. Quand elle parle de l'amour, cet amour doit se traduire par une dévotion abjecte, se vouer corps et âme à un homme, se sacrifier, endurer. La femme forte est une femme martyre. Elle n'oublie pas de sourire, même quand elle souffre. Elle sèche ses larmes et remonte sur scène. Malgré tout ce qu'elle subit, elle tient bon. Elle relève la tête et continue de servir. 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 La femme forte est un punching ball. La femme forte n'a aucune dignité, ambition personnelle, colère ou opinion. La femme féminine est une femme forte, une vraie femme. Elle sait cuisiner pour autrui. Elle sait nettoyer derrière les autres. Elle sait satisfaire son mari quand il le souhaite et où il le souhaite. Elle est fertile et produit des enfants en bonne santé. Elle applaudit en cadence et ne se plaint jamais. Voilà un comportement féminin tel que les hommes l'ont défini. Et voilà le but ultime de la féminité. N'en déplaise aux libéraux qui veulent à tout prix nous faire savourer notre oppression. Servir les hommes, servir aux hommes, exister pour les hommes. Donc la parenthèse, les libéraux, je l'apprécie très bien, qui veulent à tout prix nous faire savourer notre oppression. Ça correspond pour moi aux pro-prostitutions qui font croire que les femmes choisissent de se prostituer. Et ça, j'en parle aussi assez régulièrement. C'est quelque chose qui me révolte complètement. Voilà. Donc elle termine. Il est donc temps de se réapproprier non seulement notre corps, notre existence, notre imaginaire, mais aussi notre langage. Et elle conclut, toute femme est féminine du simple fait qu'elle est née de sexe féminin. Rien ni personne ne peut lui retirer cela. Les injonctions misogynes, elles, n'ont rien de féminin. Elles portent la marque du masculin. Voilà. Donc, je vais refaire peut-être une pause musicale avec... je vais reprendre Anne Sylvestre, puisque... C'est intéressant de redécouvrir ses chansons. Elle n'a pas eu malheureusement la reconnaissance qu'elle méritait. Donc, je vais vous faire écouter la chanson qui s'appelle « Juste une femme ».
Petit monsieur, petit costard, petite bedaine, petite saleté dans le regard, petite fredaine, petite poussée dans les coins, sourire salace, petite ventouse au bout des mains comme des limaces, petite crasse. Il y peut rien, c'est son dessein, quoi, il est pas un assassin, il veut simplement apprécier ce que la nature met sous son nez. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à saloper. Juste une femme à dévaluer. Je pense pas qu'on doive s'en inquiéter. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit ami, petit patron, petite pointure. Petit pouvoir, petit chef haillon, petite ordure. Petit voisin, petit professeur, main baladeuse. Petit curé, petit docteur, parole visqueuse, entremetteuse. Il y peut rien si ça l'excite, et qu'est-ce qu'elle a, cette hypocrite. Elle devrait se sentir flattée qu'on s'intéresse à sa beauté. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à humilier. Juste une femme à dilapider. Je pense pas qu'on doive s'en offusquer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit mari, petit soupçon, petite incartade. Petite plaisanterie de salon, petite rigolade. Fermer les yeux, on n'a rien vu, petite souffrance. Et trembler qu'une fois de plus, il recommence. Inconvenance. Quoi, si on peut plus plaisanter, on n'a plus qu'à se la faire couper. Non, c'est vrai, il n'est pas un monstre, et c'est l'épouse qui prend la honte. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à bafouer. Juste une femme à désespérer. Je pense pas qu'on doive s'en séparer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
Anne Sylvestre, juste une femme. Alors, je vais reprendre. Donc, je vais relayer une tribune qui, dont je suis complètement, j'adhère complètement, en fait. Qui est une tribune qui a été écrite récemment, à l'occasion du 25 novembre, par. Par des féministes, des femmes féministes et des associations universalistes laïques. Donc je vais vous la lire et vous comprendrez de quoi il s'agit. À l'occasion du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, plusieurs féministes universalistes et laïques françaises, belges et québécoises dénoncent les violences, notamment religieuses qui pèsent sur les femmes. L'élimination du droit à l'avortement en Pologne, suivie des imposantes manifestations du mouvement Grève nationale des femmes, pour rejeter cette énième tentative de restriction qui concerne cette fois-ci de graves malformations de l'embryon, illustre bien l'intensité du combat des femmes en Europe et dans le monde. Ceci est encore plus vrai avec l'héritage laissé par Donald Trump aux États-Unis. D'un côté, des ultra-religieux, portés par des courants politiques conservateurs ou d'extrême droite, qui prennent les femmes en otage, quitte à fermer les yeux sur les drames des avortements clandestins. Et de l'autre côté, une société en mouvement, libre, faisant preuve comme en Pologne d'un courage et d'une ténacité exemplaire, qui ne se laisse rien imposer. Lorsque le Parlement est bloqué, les femmes investissent la rue. Non, la démocratie ne se fait pas avec des citoyens de seconde zone dont on verrouille la sexualité. La démocratie se façonne à travers un État qui garantit des droits. Or, ces droits, surtout lorsqu'ils concernent les femmes, fluctuent au gré des conjonctures politiques. Si bien qu'en 1994, au Caire, lors de la Conférence internationale sur la population et le développement, le Vatican et certains pays musulmans feront leur alliance pour s'attaquer aux droits reproductifs. Ça, j'ai l'impression qu'on le rappelle pas assez. Depuis ce bloc soutenu par les évangéliques, rêve d'altérer les résolutions internationales par des dispositions relatives au respect des traditions et des pratiques culturelles. La religion force le passage et pour les droits des femmes, c'est la marche arrière garantie. Donc il s'agit d'une alliance entre toutes les religions. Toutes les religions sont donc d'accord, vous avez vu, le Vatican, pays musulman, les évangélistes, tous d'accord. Donc la suite, c'est la religion justement, la religion contre les femmes. Cette journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes revêt cette année un aspect particulier, puisqu'elle intervient dans un contexte international de turbulences extrêmes qui ont vu, avec la crise du Covid, les violences intrafamiliales et conjugales augmenter. En Europe, dans l'espace public, les femmes sont victimes de harcèlement, de violences et de viols. Lorsqu'elles décident d'agir sur le plan légal, le dépôt de plainte à la police et l'accessibilité à la justice dans des délais raisonnables deviennent des enjeux majeurs. La précarité économique et sociale des femmes est tout aussi préoccupante. Comment expliquer que des questions aussi déterminantes que l'égalité salariale, la faible rémunération des emplois majoritairement féminins et le travail partiel non choisi tardent encore à être résolues ? À l'échelle internationale, les femmes subissent les violences liées au conflit, à la montée de la pauvreté, au trafic d'êtres humains. Les autres crises n'ont pas disparu. La guerre ouverte que livrent les groupes islamistes et certains États musulmans aux femmes se poursuit, réduisant certaines d'entre elles à l'esclavage. En Afghanistan, les talibans qui invisibilisent les femmes et les empêchent d'accéder à l'éducation sont en passe de revenir au pouvoir grâce à la passivité de la communauté internationale, sinon à sa complaisance, à l'endroit des fossoyeurs d'autrefois. En République islamique d'Iran, des femmes résistantes au voile comme Nasrin Soutoudeh croupissent dans les prisons, sont torturées et violées. En Arabie Saoudite, les opposantes au régime comme Loujain al-Atloul subissent le même sort. Comment ne pas parler des excisions, des infanticides des filles, des crimes d'honneur et des mariages de mineurs ? Comment passer sous silence que l'accès à la pornographie dès le plus jeune âge amène de plus en plus de très jeunes filles à vivre leur sexualité de manière dégradante et à sombrer dans la prostitution ? Nous, féministes, universalistes et laïques, affirmons que la séparation des pouvoirs politiques et religieux est une condition indispensable au respect des droits des femmes et à la reconnaissance de leur caractère universel. Les femmes sont plus autonomes et libres dans les pays où la loi les protège, plutôt que dans des pays où les religions patriarcales sont la source du droit ou bénéficient d'accommodements. L'évolution du Québec pour consacrer le principe de la laïcité de l'État est fort encourageante. Nous, féministes, universalistes et laïques, sommes attachés à l'universalité des droits humains. Dénonçons avec force un courant relativiste qui ferme les yeux sur les injustices, les violences et les discriminations dont sont victimes des femmes de culture ou de foi musulmane. Ce courant relativiste refuse de s'opposer au voilement des femmes et même des fillettes au nom de l'antiracisme ou du respect du choix individuel au prétexte de ne pas faire le jeu de l'extrême droite et de ne pas stigmatiser les musulmans. Ce soi-disant féminisme intersectionnel Enfin, je dis soi-disant parce qu'en fait, l'intersectionnalité, ça ne devrait pas du tout être ça, mais effectivement, le féminisme qui se dit intersectionnel, maintenant, est devenu cela, qui fait de l'antiracisme ou de la lutte contre l'islamophobie un credo, comme ce fut le cas lors des agressions sexuelles à Cologne, lors des célébrations du 31 décembre 2015, ou plus récemment avec l'affaire Mila, cette jeune adolescente victime de menaces de mort, renonce au féminisme et à la solidarité internationale. En somme, c'est une inclusivité dont il parle tout le temps qui, en réalité, est excluante. Nous, féministes, universalistes et laïques, sommes attachés au principe de solidarité internationale. Il ne peut y avoir d'avancée pour les droits des femmes qu'ensemble, d'un bout à l'autre de la planète. C'est dans la continuité de nos luttes que nous ferons reculer les intégrismes religieux, les mouvements d'extrême droite et tous les courants liberticides qui s'opposent à l'émancipation des femmes. À l'heure où la France s'apprête à légiférer sur le séparatisme, soyons clairs, le séparatisme prôné par les intégrismes religieux et par les sectes cache aussi un autre séparatisme, celui entre les femmes et les hommes. Il cache aussi un suprémacisme, celui des hommes sur les femmes. Nous, signataires féministes universalistes et laïques, appelons à lutter sans relâche pour une société où l'éradication des violences à l'encontre des femmes et l'égalité des droits entre les femmes et les hommes constituent le socle de notre démocratie. Donc je me mets dans les signataires. Et les signataires, voilà, il y a beaucoup de femmes. Malika Hatkim, militante féministe et laïque du collectif Laïcité Yala en Belgique. Jemila Benahib, politologue et écrivaine, porte-parole du collectif Laïcité Yala en Belgique. Anne-Marie Bilodeau, Laure Caille, présidente de Libre Marianne France. Yeter Selili, militante féministe laïque, collectif, toujours le même collectif Laïcité Yala Belgique. Nadia Mabrouk, professeure universitaire de Montréal. Aude Exertier, avocate au Québec. Chantal Faubert, féministe universaliste. Nadia Girtz, essayiste et militante laïque féministe, prix international de la laïcité 2019 en Belgique. Rachida Hamdam, présidente des Résilientes. Christine Ledouaré, juriste, porte-parole des Vigilantes. Voilà, il y en a beaucoup d'autres encore. Il y a aussi une femme que je connais aussi, qui est Annie Sugier, physicienne, présidente de la Ligue du droit international des femmes, qui avait cofondé avec Simone de Beauvoir cette ligue. Voilà, donc, je précise pour ceux qui ne savent pas, ceux et celles, enfin, qui ne savent pas que, justement, étant universaliste et laïque, je suis complètement en accord avec tout ça, et je suis donc en désaccord avec le collectif qui s'intitule Marseille Féministe, qui pour moi n'a de féministe que le nom, puisque c'est un collectif qui est tout le contraire de ça, c'est-à-dire qui est le relativisme, qui est relativiste et qui est pro-prostitution. Voilà, donc je regarde l'heure qu'il est, il ne reste que 10 minutes, du coup, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais choisir de vous parler d'écoféminisme. J'en parle très peu parce que je connais mal le sujet. Mais je vais en parler grâce à une intervention de Marie Toussaint que j'ai pu suivre grâce à l'université d'automne de l'Assemblée des femmes. Donc Marie Toussaint, c'est une députée européenne, Europe Écologie Les Verts, et elle a cofondé en 2015 l'association Notre Affaire à Tous. Aux commissions environnement, industrie, affaires juridiques, elle se bat notamment pour la justice environnementale. En 2018, elle a fait partie des initiateurs et initiatrices de la pétition « L'affaire du siècle ». Voilà, donc j'avais prévu aussi une petite introduction, mais je pense que je n'aurai pas vraiment le temps de vous la faire, parce que sinon, je vais dépasser. Mais ce n'est pas grave, je vais vous la faire écouter tout de suite. Et puis voilà, vous vous ferez une idée par vous-même. Et puis je ferai mon introduction une autre fois, quand je reparlerai de l'écoféminisme, sujet que je connais peu. Donc je me sers de la parole des femmes qui sont dans ce combat. Voilà, très intéressant. Donc je vous la fais écouter tout de suite.
Dans le cordon ombilical, dans le lait maternel. Et ce qu'on voit bien, c'est que quand on se bat contre les pollutions...
Pardon, il faut que je vous la remette au début, là, ça ne va pas du tout, ne bougez pas. Voilà, je la mets au début.
L'écoféminisme, c'est à la fois une théorie et à la fois une pratique. Une pratique qui, pour moi, est une pratique qui vise à l'égale dignité humaine et au fait de trouver une manière de vivre en harmonie avec le vivant. Pour reprendre, par exemple, Corinne Peluchon, qui est une philosophe qui travaille beaucoup sur la cause animale, mais qui parle de considération, ou encore Baptiste Morisot de diplomatie. En tout cas, on a besoin d'aller vers cette égale dignité humaine. L'écoféminisme est un véritable outil, et d'aller vers la dignité du vivant, y compris non humain, l'écoféminisme est aussi un outil à cet égard. Et au-delà des combats qui ont été menés par dans les pays du Nord et qui ont été très largement développés, ça vaut la peine toujours d'en parler, mais du coup je ne m'y attacherai pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de luttes qui ont été menées par des femmes, sans forcément les théoriser, sans forcément se réclamer de l'écoféminisme, et qui pourtant était une bataille à la fois pour l'émancipation des femmes et pour la protection de la nature. Je crois que ça vaut la peine de revenir sur les années 70. On a parlé de Vandana Shiva, de Navdanya, qui est son organisation actuelle, mais déjà, il y a quelques années, le mouvement Chipko était porté par des femmes qui s'attachaient aux arbres pour les protéger, tandis qu'à peu près au même moment, Wangari Maathai, au Kenya, plantait des millions d'arbres aussi avec le mouvement Green Belt, dans ce double mouvement de protection des droits des femmes et de protection des droits de la planète. En Amérique latine, on les trouve aussi, ces écoféminismes de l'action, ces écoféministes de l'action, avec par exemple la défense des forêts de mangroves contre l'industrie de la crevette en Amérique latine, et on les retrouvera de toute manière dans de nombreuses luttes qui ont été menées dans ces pays-là. Je voulais souligner aussi que des militantes pour la paix, pas seulement les antimilitaristes des pays développés, mais aussi dans les pays du Sud, ont été des grandes défenseurs et sont encore aujourd'hui des grandes défenseurs de la nature et de la justice sur des combats qui sont menés dans les années 60-70. Et je pense ici notamment à Tran Tonya, qui est une franco-vietnamienne qui a plus de 70 ans aujourd'hui et qui, dans les années 60, participait à la guerre contre les États-Unis depuis son pays, au Vietnam, pour protéger son pays, et qui a été l'une des victimes de l'agent orange, qui a été ce défoliant déversé partout sur le territoire pour décimer les arbres dans lesquels se cachaient les combattants vietnamiens. Et en fait, quand on détruit la nature, ça a toujours des répercussions sur l'être humain. Tran Tonya et ses enfants, sur plusieurs générations, sont malades, souffrent de ce qui a été nommé en 1972 lors de la conférence de Stockholm comme le premier écocide, qui est l'agent orange. Alors, on peut discuter de la date des premiers écocides, mais en tout cas, ça a été la première fois que ce mot a été utilisé sur la scène internationale. Et là aussi, là encore, c'est une femme qui mène encore aujourd'hui ce combat, avec des reports sans cesse du procès qui doit se tenir en France, qui était prévu pour après-demain et qui est repoussé en janvier. On espère qu'il se tiendra face au usual suspect, si j'ose dire, notamment Doki Nichols, mais aussi Monsanto. Et pour revenir peut-être sur la situation aujourd'hui, pourquoi je parle de ces femmes des pays du Sud ? D'abord parce que toutes les agences des Nations Unies et toutes les organisations internationales le disent, les femmes sont les premières victimes et du dérèglement climatique et de la destruction de la planète en règle générale. Ce sont souvent elles, dans le Sud, qui sont chargées de la recherche d'eau, du soin du jardin, de l'alimentation domestique, aussi de toutes les activités agricoles très peu valorisées comme la gestion administrative et financière. Et on prête très peu, souvent, attention à ce qu'elles font. Mais évidemment, toutes ces tâches sont rendues plus difficiles par la désertification, la disparition de l'eau, par le réchauffement climatique aussi. Aujourd'hui, 70% des pauvres autour de la planète sont des femmes. Et dans les pays du Sud comme dans les pays occidentaux, le risque de décès est 14 fois plus élevé lors de catastrophes météorologiques que pour les hommes. On voit donc bien la profonde inégalité et injustice qui règne devant la destruction de la planète entre les hommes et entre les femmes. J'aimerais aussi dire que ce qui est montré, c'est qu'en donnant plus de pouvoir aux femmes, on améliore les conditions de chacune et de chacun et on améliore la protection de la planète. Pour ne prendre que le sujet de l'agriculture dont je viens de parler, la FAO souligne que si les femmes profitaient du même accès que les hommes aux ressources productives, elles pourraient augmenter de 20 à 30% les rendements de leur exploitation et diminuer de 12 à 17% le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde. C'est notamment porté par Clotilde Bateau et l'association Sol en France. Et je pense que c'est important de le souligner au moment où la FAO, donc cette agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, vient d'être nommée prix Nobel de la paix après une pandémie qui a fait augmenter de manière extrêmement conséquente le nombre de pauvres et la faim dans le monde. Monique Dautal en a parlé, Françoise Vergès l'a montré. Cette lutte des femmes, ça a été aussi celle des femmes des anciennes colonies au sein de nos pays. Françoise Vergès raconte que c'est au contact des femmes kanak que Louise Michel et ses camarades ont pris conscience de ce qu'était le colonialisme. On estime aussi à plusieurs centaines, voire des milliers, les femmes qui ont subi des avortements et des stérilisations forcées dans les années 60 et 70 dans l'île de la Réunion. On retient aussi l'affaire des enfants de la Creuse, qui ont été en fait des enfants enlevés, plus de 2000 enfants enlevés à leurs parents, à leur mère, à la Réunion. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la Réunion est aussi un espace où on considère que la protection de l'environnement, les conditions sanitaires, eh bien, sont moins importantes que celles qu'on met en place en métropole. Et donc, on voit bien la juxtaposition de ces inégalités et de ces injustices et l'apport que ces femmes-là ont pu avoir sur le mouvement féminisme français. Alors, je ne parle pas de Monique Dantal, évidemment, mais ça a été passé sous silence par de nombreuses féministes en France et je crois que ça a été aussi abordé. Encore aujourd'hui, le PNUD tire la sonnette d'alarme sur ces stérilisations, avortements forcés. Mais pourquoi je vous parle de ça? Quel lien avec l'écoféminisme? Eh bien, parce qu'on la retrouve, on retrouve ces batailles aujourd'hui dans la bataille menée par les Antillais, et notamment les Antillaises, en Guadeloupe et en Martinique, contre le chlordécone. Le chlordécone, c'est une sorte de parent de l'agent orange. Et il a été répandu dans les bananeraies pendant 20 ans en France, après son interdiction aux États-Unis, après y compris son interdiction en métropole. Il cause des pollutions diverses sur les écosystèmes, il cause aussi des maladies multiples sur les personnes et surtout, il provoque de nombreuses naissances de prématurés, il s'introduit dans le cordon ombilical, dans le lait maternel. Et ce qu'on voit bien, c'est que quand on se bat contre les pollutions aux pesticides, au chlordécone, à l'agent orange, à d'autres produits, on se bat pour la santé des enfants, on se bat aussi pour la santé des mères, des femmes. Et cet enjeu des mères qui est aujourd'hui porté par le front de mère Fatima Wassak, notamment en France, alors pas seulement, mais est un enjeu absolument essentiel. Mais ce que je voulais dire également, c'est qu'encore aujourd'hui, au niveau mondial, les hommes détiennent 70% des richesses et 80% des terres de la planète, et que 9 milliardaires sur 10, parmi les plus de 2000 milliardaires que compte la planète, sont aujourd'hui des hommes. Que ces hommes, dans l'histoire, et leurs ancêtres, leurs prédécesseurs, sont aussi ceux qui sont à la tête des grandes fortunes qui ont été bâties sur la destruction de la planète, notamment ces grandes fortunes issues des énergies fossiles, issues de l'agroalimentaire et de la déforestation, dont on pourrait reparler aussi au vu de l'actualité d'aujourd'hui, et puis rejoint par les troublions du numérique, Bill Gates, Jeff Bezos ou Elon Musk. On retrouve cette conjonction à la fois de celles qui sont en bas de l'échelle et dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui se battent avec un courage et une détermination absolue, et en face, à l'opposé, de l'autre côté de l'échelle, ces grands hommes qui sont à la tête des activités qu'ils nous ont imposées et qui ont construit un modèle qui nous rend toutes et tous dépendants de ce modèle-là et qui disposent de la plupart des richesses et du monde et des capacités de production. Se battre pour faire entendre la voix des femmes, c'est aussi se battre pour faire entendre la voix des Wet'suwet'en qui, au Canada, s'opposent aux méga-gazoducs qui traversent leur territoire. Et c'est en ce sens que tous les combats des femmes, celui d'Adèle Haenel, celui d'Aïssa Maïga, celui d'Assa Traoré, d'Irène Gunpin, qui se bat face au centre d'enfouissement des déchets de Bure, celle de Berta Cáceres, qui a été assassinée parce qu'elle défendait les droits de la nature et les droits des territoires, participent, à mon sens, d'un seul et même mouvement, aussi bien que celui des femmes, que la voix des femmes qui s'oppose aujourd'hui à Viktor Orban en Hongrie, ou celle des femmes biélorusses qui s'oppose à Loukachenko. Ces femmes-là, elles sont souvent oubliées par l'histoire. On oublie souvent, quand on parle de désobéissance civile, que Rosa Parks, une femme, est une grande figure de la désobéissance civile face aux politiques de ségrégation qui étaient menées aux États-Unis. On oublie souvent aussi que dans la science, les femmes ont été des éléments marquants, des porteurs de révolution. Hélène Swallow, qui initia les premières recherches sur la qualité environnementale au XIXe siècle, la première femme admise à l'Institut de technologie du Massachusetts, Rachel Carson, évidemment, avec son livre Silent Spring, contre les pesticides, Carol Gilligan, dans les années 80, qui pose les fondements de l'éthique du care, ou encore Janine Benyus, dont on parle beaucoup moins, et qui a posé les premiers concepts du biomimétisme. Dans les batailles de la justice environnementale, on peut parler aussi de Louise Gibbs, en 1980, face à Hooker Chemicals, à Love Canal aux États-Unis. On peut parler d'Erin Brockovich, qu'on connaît grâce à la filmographie, face à PG&I en 1993 en Californie. Nadezhda Kutepova, qui se bat depuis les années 2000 face à l'irradiation de Tchernobyl pour la justice environnementale. Et je ne peux pas parler de tout ça sans parler à la fois des militantes de Notre Affaire à Tous, qui sont extrêmement nombreuses et que, avec lesquelles je suis ravie et honorée de travailler, mais aussi évidemment de Greta Thunberg, d'Hanouna de Wever et d'Aleï Charlie en Belgique, d'Alexandria Villasenor et Jamie Margolin aux États-Unis, d'Irsa Hirsi, de Léa et Vanessa en Ouganda, de Shama à l'île Maurice, de Ridima en Inde, Sarah en Nouvelle-Zélande, toutes ces jeunes femmes qui se battent aujourd'hui à la fois pour leurs droits à un avenir dans un climat stable, une planète protégée, mais aussi pour les droits de la nature. Le chemin pour faire entendre les voix de toutes ces femmes est encore long, notamment en France. Évidemment, on compte encore très peu de maires femmes, très peu de têtes de liste femmes encore aux dernières élections. On n'a encore jamais eu de présidente de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Dans le monde économique et culturel, on a aussi cette grande disparité. Et je crois que le combat qu'on doit mener aujourd'hui, c'est ce combat qui est évoqué par Gayatri Spivak, celui qui doit utiliser l'écoféminisme, non pas comme une théorie qui consiste en un aboutissement, mais comme une manière de se mettre les uns les autres ensemble pour redonner de la dignité, de la voix, écouter et tenir en compte chacune et chacun dans la société que l'on veut construire pour demain.
Voilà, donc c'était Marie Toussaint, députée européenne, commission de l'industrie et affaires juridiques, qui se bat pour la justice environnementale. Je vous dis à bientôt, merci de votre écoute et de votre soutien.
Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.